Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose d'inimaginable pour moi. D'accord, je voudrais remercier le Seigneur. Voilà, je me suis inscrite en cours d'aide-soignante Croix-Rouge, formation la Croix-Rouge, et ces cours vraiment sont très, très, très chers. Et quand j'ai vu que je devais payer une telle somme, je me disais, mais comment je vais faire? Ça, je ne sais pas. Seigneur, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. C'est vrai que quand moi je suis, quand ma famille est dans certains besoins, j'aide ma famille comme je peux. Maintenant, moi à mon tour, qui va m'aider? Je ne sais pas, Seigneur, vraiment je ne sais pas. Mais je te confie cela. Et quand j'ai fini de prier, on va dire peut-être 2-3 jours, l'agence de placement dans laquelle je m'étais inscrite depuis quelques années, l'agence ne m'appelait plus. Depuis plusieurs mois, et ce jour-là, ils m'ont appelé pour me demander si je pouvais venir faire une mission de 13 jours. Et au lieu de faire 13 jours, j'ai fait 3 mois. J'ai fini le 28 novembre passé là. Et j'ai pu payer mes coûts. Et Dieu m'a donné encore un pourboire ou bonus, parce que c'est avec ce bonus que je m'en vais passer les vacances dans mon pays. Et vraiment, je dis beaucoup merci à Dieu.
Merci, professeur. Amen. Oui, quand on met sa foi dans le Seigneur, sa grâce est libérée. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ton témoignage nous le rappelle. Merci beaucoup, Patricia. On va passer maintenant dans ce temps d'offrande, montrer notre reconnaissance. Merci à Samuel et Audrey de passer les paniers dans les rangs. Et alors, avant, je vais lire la parole de Dieu. Voici ce qu'il est dit sur les priorités du royaume de Dieu. La personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Dans ce monde qui nous pousse toujours à, n'est-ce pas, à aimer les plaisirs, Proverbe 21:17, la personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Celle qui aime bien boire et manger ne deviendra jamais riche. Donc, si on prend le verset à l'envers, les personnes qui n'aiment pas les plaisirs seront toujours riches et celle qui n'aime pas bien boire et manger deviendra riche. Donc voilà, il y a une promesse de bénédiction dans ces proverbes. En fait, ça nous montre les priorités à avoir. Ce n'est pas nous le centre, mais c'est le royaume de Dieu et les valeurs. Alors je vous invite à donner généreusement, selon votre cœur, comme vous l'avez décidé avec Dieu, et puis à vous attendre à toutes ces bénédictions qui sont là. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait au quotidien dans nos vies. Audrey, tu veux prier ? Dieu remettra à Dieu cette offrande, qu'elle lui soit agréable.
Seigneur, je te remercie pour cette offrande, qu'elle puisse être vraiment entièrement pour toi, Seigneur, pour ton royaume. Et je te prie de bénir tous ceux qui ont donné, Seigneur, qu'ils puissent recevoir des bénédictions, Seigneur. Amen. Amen.
Tout à l'heure, c'était dit qu'Éphésiens 3, on est béni de toute bénédiction spirituelle. Et donc, c'est un juste retour que nous faisons en remerciant Dieu, en lui accordant, entre guillemets, lui accordant une partie de nos finances directement. On va écouter la parole de Dieu et ce soir, c'est Anne qui va la partager, la proclamer. Est-ce que vous êtes prêts à relever des défis? Oui, parce que Jésus nous met au défi, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Il ne veut pas qu'on ronronne, il veut nous défier. Alors, je pense qu'il y a une parole de défi, on va voir. Et ouvrons nos Bibles, lisons en parallèle dans ce qui est lu tous les versets qui seront cités et puis laissons-nous guider. Merci Seigneur pour ta présence et ta parole, qu'elle porte du fruit au-dedans de nous et dans la communauté tout entière.
Bonsoir. Alors voilà, c'est un privilège pour moi de vous parler ce soir et j'aime parler sur des thèmes qui me parlent. Donc c'est vrai que pour moi, il faut que quand je parle de quelque chose, il faut que je puisse, ça m'est déjà travaillé parce que sinon je trouve que je n'arrive pas bien à le dire. Donc c'est un thème qui me travaille ces temps et qui m'a travaillé, qui continue à me travailler. Donc si parfois je dis « vous » ou bien « tu », sachez que je me mets aussi dans l'eau parce que j'ai autant besoin d'apprendre que vous sur les sujets qu'on aborde spécialement ce soir. Alors le sujet dont je vais vous parler, c'est le temps. Ce n'est pas le temps qu'il fait, mais c'est le temps qui passe. Et On sait que le temps, c'est de l'argent. On a fait l'offrande et puis on a donné une partie de notre argent. Et puis en même temps, on dit, il y a cette expression qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Donc on est tous conscients, je pense, que le temps est précieux, qu'on n'en a souvent pas assez. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent l'impression de courir après le temps. Et puis ça m'a amené aussi à me poser et à me dire « mais en fait, comment est-ce que je peux ou je veux gérer mon temps à la lumière de Dieu ? C'est quoi le temps pour Dieu ?» etc. Et je vais un peu vous parler de ça ce soir. C'est intéressant de voir qu'on est dans un temps qui s'accélère, on le dit, nous, chrétiens, on voit aussi les signes qui font qu'on voit que le temps s'accélère, qu'il y a des choses qui se passent, on a l'impression que ça se passe de plus en plus vite, qu'on a de moins en moins de temps, qu'on est pris de plus en plus dans un espèce de tourbillon. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les chrétiens qui constatent ça, mais c'est aussi le monde qui le constate. On était mercredi dernier, on était à la remise des diplômes HEG pour Mathias, il a reçu sa remise des diplômes, son diplôme. Et il y a un des directeurs, il y a eu plusieurs discours qui étaient faits, des très bons discours d'ailleurs, dont un qui parlait justement de ça. Puis c'était intéressant parce que j'étais en train de préparer aussi mon message. Et puis il parlait de ça, il disait que le temps s'accélère et que nos sociétés vont de plus en plus vite. Et en fait, comment est-ce que nous, et spécifiquement les jeunes qui sortaient de cette école, pouvaient s'adapter à ce temps qui s'accélérait de plus en plus vite? Et je me suis dit, ben c'est vrai en fait, nous on le remarque, on sait, on voit les signes autour de nous qui sont liés à la Bible, liés à la fin des temps, mais le monde il ressent aussi cette tension du fait que les choses elles s'accélèrent. Et pour nous, j'aimerais vraiment commencer avec ça, c'est bon de nous rappeler que Dieu est le maître du temps. Et ça remet les choses en place, ça nous remet aussi à notre place de dire, ben Dieu, toi, tu es le maître du temps. Le temps t'appartient. C'est Apocalypse 22, 13 qui nous rappelle cela. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est Dieu qui parle, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que c'est rassurant de se dire qu'on est rattaché à un Dieu, on est les fils et les filles d'un Dieu qui a le temps dans sa main, qui était là avant nous, beaucoup, bien, bien avant nous. On a parlé, il y a eu un verset qui est sorti avant la fondation du monde, pendant la louange. Tu m'as choisi, j'ai déjà été choisi avant la fondation du monde, donc ça nous ramène à très longtemps. Et Dieu est le Dieu d'éternité, il sera là pour toujours. D'ailleurs, merci Carla, tu m'as fait un tapis rouge avec le passé, le présent, l'avenir. C'était juste une confirmation pour moi aussi, parce que c'est vraiment ça. Dieu est le maître du temps. Et aussi que Dieu est éternel. Dans Ésaïe 57, verset 15, et puis c'est une version Darby, une version particulière, qui dit ceci, enfin particulière, qui m'a bien plu pour ce verset-là. « Ainsi dit celui qui est haut, élevé et exalté, qui habite l'éternité et duquel le nom est saint. » J'aime beaucoup cette notion de « habiter l'éternité ». Je pense à ce Dieu qui habite, son habitation, c'est l'éternité. Donc, je ne sais pas comment nous, on peut l'imaginer ou l'expliquer, mais il se meut dans cette éternité. Son habitation, elle est faite de l'éternité. Puis là aussi, encore une fois, ça nous remet en place en se disant, mais ouais, Dieu, il est le maître suprême. Et moi, je peux juste être à ma place dans le temps qui appartient à Dieu. J'aime aussi tous ces versets qui parlent du Dieu des générations. Dieu est le Dieu de génération en génération, tu es Dieu, parce que ça nous rappelle aussi que nous, on est là sur terre pour un bout de temps, mais Dieu a des desseins, des projets qui transcendent les générations, qui étaient là dans les générations longtemps avant nous et qui passent d'une génération à l'autre. Et au fur et à mesure que les générations, elles passent et elles passent et elles passent et elles passent, le plan de Dieu s'accomplit pour les nations et pour nous à un moment donné, mais en continuité avec les prochaines générations. Et on est rattaché à un plan de Dieu éternel qui n'est pas juste nous, mais qui est fait de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents et à nos, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais enfants, petits-enfants, peut-être petits-petits-enfants, je ne sais pas. Mais on est un bout de ce chaînon d'éternité que Dieu a mis en place. Et c'est juste incroyable de saisir un tout petit bout de ça, qu'on fait partie d'un dessein éternel et que dans notre petit bout, on peut influencer la suite parce que je vis, parce que je transmets à mes enfants, à mes petits-enfants. Je peux continuer cette suite de génération en génération de ce Dieu qui est éternel. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, mais moi, ça me parle beaucoup parce que ça me parle d'un Dieu qui est infini. Et le côté infini de Dieu, ça nous dépasse totalement. On a quelques petites notions en mathématiques, les nombres infinis, ça ne s'arrête jamais. Il y a des petites choses qui nous raccrochent à cette réalité de l'infini, mais ça nous échappe quand même beaucoup. La science de Dieu, il y a un verset qui dit ça, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et ça, c'est génial. En même temps, savoir qu'on appartient à ce Dieu-là. Dieu est le maître du temps, c'était mon premier point. Et dans ce temps, il y a ma vie, il y a mon temps à moi, ce temps qui m'est destiné. Et là aussi, il y a le regard de Dieu sur ma vie, sur mon temps, sur cette terre. Et dans le psaume 139, versets 14 à 16, ça nous parle de, ça parle de moi, ça parle de toi, de comment Dieu, il était déjà dans ta vie à toi et qu'il est maintenant dans ta vie à toi. Et ça commence au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. » Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu te voyait déjà, les yeux de Dieu étaient déjà sur toi. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu, même avant la fondation du monde, tu as été choisi avant la fondation du monde. Dans le ventre de ta mère, Dieu te voyait déjà. Et Dieu, il sait déjà, c'est inscrit dans un livre les jours qui te sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu sait déjà la fin de ta vie, combien de temps tu vas vivre sur terre. Nous, on préfère pas savoir, puis c'est très bien qu'on sache pas. Ça appartient à Dieu, mais Dieu, il est au-delà de toute notre vie. Il était déjà avant, il sera après, et il nous avait déjà vus et il avait déjà saisi l'importance qu'on soit sur terre avant qu'on soit sur cette terre. Et on aimait dire à nos enfants, mais alors j'étais où ? Ils nous posaient la question, mais j'étais où quand j'étais, avant d'être dans ton ventre, j'étais où ? Ils nous disaient. Puis on avait entendu cette réponse, puis on la trouvait tellement géniale. T'étais dans la pensée de Dieu. Waouh, c'est tellement beau ça, de dire, mais avant que tu sois né, t'étais déjà dans la pensée de Dieu. Dieu connaît ma vie et le nombre de jours que je vais passer sur terre. Il était là lorsque j'ai été conçue et sera là lors de mon dernier souffle. Pour ma part, j'ai toujours eu de la peine, je ne sais pas pour vous, à aborder la notion de la vie et de la mort. C'est quelque chose, un thème dont je n'ai jamais aimé beaucoup parler. Peut-être parce que je suis assez sensible, mais je sais qu'il y en a d'autres, et puis je sais que je ne suis pas forcément la seule, mais des fois, Laurent, il me disait, « Ouais, moi, quand à mon enterrement, j'aimerais ci ou ça. » Puis je disais, « Arrête de parler de ça, j'aime pas qu'on parle de ça et tout ça. » On a de la peine avec... Enfin, certains d'entre nous, je ne veux pas vous mettre tous dans le même paquet, mais parfois, on a de la peine à se dire, « Ben oui, je suis là pour un bout de temps sur la terre. » Et ma vie, elle est limitée dans le temps. C'est intéressant, j'écoutais une chanson, je ne suis pas très rap, mais il y a quelques jours, j'avais la radio, puis j'entendais une chanson, c'est une nouvelle chanson là, qui est sortie il y a une ou deux semaines, et puis qui disait cela, c'est deux chanteurs. Ma fille va me rappeler qui c'est, j'ai noté ça quelque part. C'est Big Flo et Oli. Je sais pas, les jeunes, vous connaissez, moi, je ne connaissais pas du tout. Mais la chanson, elle est assez chouette. Elle dit, quand j'étais petit, en fait, on me disait, tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je ne comprends pas. Et vous avez sûrement entendu cette chanson. Et puis, on est plus tard maintenant, puis je ne comprends toujours pas. On me disait, ouais, quand j'étais petit, tu comprendras plus tard, ce n'est pas grave, tu comprendras plus tard. Puis dans les paroles de la chanson, il dit à un moment, aujourd'hui, je me dis que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Puis je réfléchissais, puis je me suis dit, mais ouais, il y a quelque chose de vrai dans ça. En fait, moi, j'ai 50 ans, puis j'ai l'impression que mes parents, ils sont immortels. J'ai pas envie qu'un jour, ils partent. Puis je m'accroche à ça, de me dire, mais oui, ils sont immortels, dans le sens que c'est sûr que je vais les rejoindre dans l'éternité. Mais on n'a pas envie que les gens nous quittent à un moment donné. On est comme, c'est quelque chose qui nous dérange. Le psaume 90, verset 10, dit ceci, « La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car le temps passe vite et nous nous envolons. » C'est vrai, le temps passe vite et puis un jour, on s'envole. Et j'aimerais pas être négative ce soir, vous allez vous dire « Wow, c'est lourd ce soir le thème !» Mais il est vraiment rempli d'espérance, ce thème-là. Un jour, je vous ai peut-être dit, ma grand-maman qui est décédée à 86 ans, à peu près, elle a dit, ma vie est passée comme un souffle. Et ça m'avait choquée, parce que je me suis dit, mais ma grand-maman, elle a vécu 86 ans, puis qu'elle a dit, ma vie, elle est passée comme un souffle. C'était juste pour moi de me dire, mais non, elle a vécu longtemps, elle a beaucoup vécu, mais elle a eu cette impression que sa vie était passée comme un souffle. Et d'ailleurs, c'est biblique parce que c'est écrit à un moment que c'est comme une vapeur. Notre vie est comme une vapeur. J'aime bien aussi l'exemple de Jésus au niveau du temps. Et quand ce temps qui est défini dans le temps... Parce que Jésus, il avait une grande mission sur la terre. Il a vécu 33 ans à peu près. Et il a eu une grande mission, mais très peu de temps pour finir pour l'accomplir. Il a eu 3 ans à peu près pour accomplir sa mission. 30 ans de préparation et 3 ans d'action. Et pourtant, Jésus n'a jamais, dans la Bible, on ne le voit jamais stressé, on ne le voit jamais sous pression. Oui, il a été sous pression par les gens autour de lui, par sa famille ou comme ça, mais il ne s'est jamais laissé mettre la pression dans le sens qu'il a fait ce qu'il avait à faire pendant ces 3 ans et puis il est allé jusqu'au bout, mais en prenant le temps de faire les choses l'une après l'autre. Dans ce psaume, encore une chose par rapport à Jésus, c'est qu'il prenait même le temps, souvent, de se retirer dans le désert, de laisser tout le monde, de partir au loin et prendre du temps pour parler à son père. Vous me direz, mais il avait 3 ans sur terre, il n'avait pas le temps, c'est pas possible, il allait encore dans le désert, tout seul et tout ça. Et pour lui, en fait, c'était pas négociable, c'était indispensable pour lui de pouvoir avoir cette relation avec son père. Dans ce psaume 90, verset 10, je vous ai lu le premier bout. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Et tout de suite, la suite, c'est « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et ça, je trouve c'est intéressant. De dire « Oui, notre vie, elle va vite. Oui, notre vie, elle est comme une vapeur, un souffle. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours afin que mon cœur parvienne à la sagesse. » Et la question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est « Est-ce que je suis d'accord de me laisser enseigner par Dieu afin que je puisse compter avec lui et organiser le temps avec lui, ce temps que j'ai à vivre sur terre ?» Et j'aimerais vraiment vous laisser cette pensée. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser enseigner par Dieu, à compter les jours de votre vie ? Il y a un autre verset qui nous dit, dans Éphésiens 5, 15 à 18, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, deux points. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » On sait que le temps qui est passé est passé. On ne va pas pouvoir revivre les choses qu'on a du passé. C'est fait, c'est fait. Mais c'est quand même intéressant de dire « je peux racheter le temps ». Ça veut dire qu'il y a des choses où j'ai perdu du temps. Et je me rends compte que j'ai perdu du temps dans certaines choses. Mais maintenant, je ne veux plus perdre du temps dans certaines choses. Je veux que ce temps, il soit vraiment pour Dieu. Et c'est la deuxième question que j'aimerais vous poser. Ai-je perdu du temps dans certaines choses et comment puis-je racheter ce temps pour les jours, mois, années à venir? Il y a un autre texte dans la Bible qui est intéressant par rapport au temps qui passe, au temps qu'on a. Et c'est, je n'ai pas noté la référence, je ne sais plus. Ça concerne les fils d'Issacar. J'en avais parlé une fois à une réunion de prière. Il est dit des fils d'Issacar qu'ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est intéressant de se dire, et c'est ma troisième question, est-ce que je suis capable de discerner les temps dans lesquels je vis et que les nations sont en train de vivre pour savoir ce que je dois faire et ce que nous devons faire en tant qu'Église? On a besoin du discernement de Dieu sur les temps qu'on vit. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais je pense que vraiment on a besoin de la révélation de Dieu sur notre génération pour savoir comment on doit vivre, comment on doit agir, comment en tant que chrétien on doit se mouvoir et faire quelque chose. On ne peut pas passer à côté de cette révélation de Dieu. Discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Discernement des temps pour savoir ce que je dois faire. Plus pratiquement, j'aimerais vous donner quelques clés par rapport à discerner ou gérer mon temps. Discerner les temps et gérer mon temps. Comment est-ce que je peux faire? On a dit tout à l'heure que Jésus, il passait beaucoup de temps dans la présence de son Père. Si Jésus avait besoin de passer du temps dans la présence de son Père, combien à plus forte raison j'ai besoin de passer du temps avec Dieu chaque jour pour recevoir sa pensée sur ma gestion du temps, comment je peux gérer mon temps. Psaume 46, 10 dit « Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. » On court beaucoup. On s'arrête peu et on se pose encore moins. Je parle pour moi en premier. Parfois, on est pris dans ce tourbillon qui fait qu'on avance, on y va, on fait et tout ça. Puis tout à coup, on se rend compte, mais on fait les choses machinalement, mais on ne sait presque plus pourquoi on les fait. Et puis de se dire, mais waouh, il faut que je prenne un temps de recul pour juste arrêter d'avoir la tête dans le guidon et me dire, mais est-ce que ce que je fais est dans les priorités de Dieu ? Cet été, je suis partie quelques jours. J'ai partagé ça à l'école, donc il y en a qui ont déjà entendu ce petit témoignage. Je suis partie 5 jours en Valais, toute seule. J'ai dit, je vais prendre un temps toute seule avec Dieu. Et puis, je suis partie de Genève. J'étais dans ma voiture. Je suis arrivée, même pas vers Nyon. Je me suis dit, non, je vais rentrer. Être toute seule pendant 5 jours. Ça ne me convient pas, j'étais pas bien avec cette idée. Parce que, en fait, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de se retrouver seule, puis c'est pas facile. Moi, je suis assez sociable de nature et des fois, de me retrouver seule, ce n'est pas ce que je préfère. Mais là, j'avais besoin d'un temps avec Dieu, donc j'ai dit non, allez, j'y vais, je continue et tout. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu il va bien pouvoir me dire ? Pendant ces 5 jours, enfin, j'étais presque un peu tendue d'être 5 jours toute seule avec Dieu dans mon appartement en Valais. Et puis, je me suis dit, ouais, il va me dire des trucs, ce qui ne va pas trop bien dans ma vie. Enfin, parfois, on est un petit peu bizarre, hein. Enfin, moi. Et puis, j'arrive dans l'appartement, puis j'arrive, puis je dis adieu comme ça. Bon, voilà, je suis là. Mais presque un peu angoissée de passer 5 jours toute seule, et puis avec Dieu. Et puis, en fait, ce qui était génial, c'est que je me suis mis, j'étais là un moment avec Dieu sans faire quelque chose de spécial, mais j'étais là. Puis, en fait, les premières choses que Dieu me dit, c'est la valeur que j'avais pour lui. Ça m'a tellement touchée. Il aurait pu me faire une liste de tout ce que a changé dans ma vie, t'occuper mieux de ton mari, ou je sais pas quoi, ou faire mieux ci, mieux ça, et tout ça. Puis, en fait, on a des fois un peu peur de ça. Puis Dieu, ce qu'il me dit, c'est « t'as tellement de valeur pour moi, j'apprécie tellement qui t'es, j'apprécie tellement ce que tu fais. » J'étais juste là « oh Seigneur !» Et je crois vraiment que, moi j'aimerais vous encourager à prendre des temps avec Dieu sans crainte de ce qu'il va vous dire. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il sait par où nous prendre, il sait comment nous prendre. Puis après, ça viendra. Dans les jours à venir, le Saint-Esprit m'a parlé, mais ce n'était pas avec des accusations ou comme ça. C'était pour remettre certaines choses en place, mais il le fait avec tellement de douceur qu'on est là, waouh, c'est juste bon que Dieu il nous reprend, mais avec amour. Il y avait une soirée de femmes il y a quelques années, et ça m'a beaucoup touchée. Il y avait une femme qui était venue, une oratrice, et elle avait parlé du fait de recevoir chaque matin son ordre de mission. Au niveau de la gestion du temps, elle se mettait chaque jour devant le Seigneur et elle disait « Seigneur, c'est quoi mon ordre de mission pour aujourd'hui ?» Et puis, elle s'attendait vraiment au Saint-Esprit pour qu'elle aille le contour de sa journée qui lui donne ben « voilà, commence par ça ». Ce n'est pas qu'elle avait forcément tout, mais elle se mettait à l'écoute pour dire « ma journée, je la soumets à Dieu et je veux écouter l'ordre de mission qu'il va me donner pour être vraiment en cohérence avec ce que lui, il a préparé pour moi. » Et c'est intéressant, je vous encourage aussi à faire ça, de dire « mais Seigneur, c'est quoi ton programme pour aujourd'hui ? Je suis prête à ce que tu changes mes plans, je te donne mon agenda et je te soumets ma journée. » Et moi, j'ai vécu vraiment plusieurs fois, je peux le dire, des fois où je ne savais pas comment j'allais gérer ma journée parce que des fois, il y en avait tellement de choses. Et puis, c'est comme si je dis « Seigneur, tu vois, cette journée, je te remets tout et tout. » C'est comme s'il y a des choses qui s'allègent, qu'il y a un rendez-vous qui s'en va, puis un truc que je pensais passer une heure pour faire, c'est fait en 10 minutes. Parce que Dieu, qui est le maître du temps, il ne veut juste pas qu'on soit surmené, qu'on soit épuisé, qu'on soit stressé. Et il va juste, si on lui demande, mettre en place les choses pour qu'on puisse les faire dans la paix, dans la tranquillité et dans le repos. J'apprends à connaître, je ne suis pas encore arrivée au bout, mais j'apprends à connaître ce Dieu qui veut tellement qu'on puisse demeurer dans cette paix et ce repos, qu'il est bon avec nous et il va nous donner les stratégies, il va nous donner des idées pour que ce soit moins lourd et moins stressant. J'ai bien aimé le message de Sandra Duby la dernière fois, où elle a dit, vraiment, tu peux entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a parlé de ça. Tu peux entendre la voix de Dieu. Et moi, j'aimerais vraiment vous redire ce soir, tu peux entendre la voix de Dieu liée à ton organisation et à ta gestion du temps et à tes priorités. C'est un mensonge, elle a parlé de ça, de l'ennemi, de te faire croire que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et on entend, je ne sais pas vous, mais on entend des fois des choses bizarres dans nos pensées. Alors si on entend des choses bizarres qui nous viennent de l'ennemi, à plus forte raison, on peut entendre la voix de Dieu parce qu'on est fils et filles de Dieu. Et moi, je revendique ça, c'est de dire oui, j'entends la voix de Dieu parce que j'en ai marre d'entendre les voix des fois de l'ennemi qui me susurrent des trucs un peu bizarres, mais je suis fille de Dieu, donc je veux entendre la voix de Dieu. Et je vais l'entendre, et je l'entends. C'est ce verset dans Jean 10, 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Ce n'est pas « certaines de mes brebis entendent ma voix ». C'est « mes brebis », donc toutes, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. si tu suis Dieu, si tu restes près du bon berger, tu vas entendre la voix de Dieu. Alors, ça ne va pas forcément être « Moi, l'Éternel, je te dis ». Moi, ce n'est pas comme ça qu'il me parle. Hein. On ne sait jamais, mais ce n'est pas comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on est proche de Dieu, on apprend à sentir les choses, puis à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Et plus on a soif de ça, moi, je vois déjà dans ma vie une évolution. Je peux dire maintenant, et ce n'est pas, je ne vous dis pas orgueilleuse, mais je vous dis vraiment, depuis le temps, je sens que la voix de Dieu est de plus en plus claire à mon oreille. Parce que je veux être près du bon berger, et puis de plus en plus, je vais entendre sa voix de manière limpide. Et c'est la même chose pour vous. Et des fois, c'est une voix intérieure. Tu as quelque chose dans ton être intérieur. Souvent, c'est ça pour moi. Tu as une paix ou tu as une agitation intérieure quand tu as une décision à prendre. Tu as quelque chose, tu dois décider quelque chose, puis ah, tu n'es pas en paix. Tu dis, oups, c'est bizarre. Il y a les autres autour de toi aussi. Tu peux dire, Laurent, j'ai ça dans mon cœur, mais je ne suis pas très en paix. T'en penses quoi? On est aussi les uns et les autres pour s'aiguiller et puis s'aider les uns les autres. Et puis la parole de Dieu qui va te montrer, parfois, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais c'est comme si un verset il est en fluo. Tout à coup, vous l'avez déjà lu 50 fois, puis tout à coup, c'est comme s'il est en fluo dans votre Bible pour ce moment particulier, puis cette décision à prendre. Pose des questions à Dieu, et tu vas voir qu'il va te répondre. Il aime que tu le consultes et ne va pas te laisser dans le flou. Dieu, il se plaît à se révéler à nous. Ce n'est pas un Dieu de cache-cache. Si je demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour aujourd'hui? Est-ce que je dois aller à ce rendez-vous ou est-ce que je ne dois pas aller au niveau de ma gestion du temps et de mon organisation? Il ne va pas dire débrouille-toi, tout ci, tout ça. Moi, je crois vraiment qu'il veut nous donner des pistes, il veut nous aider, il veut nous aiguiller. Ce n'est pas un Dieu mystérieux, ça plane et tout. Non, c'est un Dieu qui veut se révéler de manière concrète dans nos vies. Dans cette recherche par rapport à la gestion de notre temps et des priorités dans notre temps, je pense vraiment que Dieu nous appelle à un retour à ce qui est essentiel. Il y a des modes culinaires différentes. Moi, j'aime bien faire la cuisine et j'achète des fois des revues et tout ça. Et puis, il y a un peu une mode actuellement qui est, ça fait depuis plusieurs années, mais un peu la mode bistrot. On retourne aux choses qui sont authentiques, qui sont naturelles. On en a marre du chichi. On veut des choses qui sont bonnes, qui sont naturelles, qui sont fraîches, qui ont du goût. Et puis, j'aurais envie de vous dire la même chose ce soir, mais dans ta gestion du temps, si tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire, reviens à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi les choses qui auront de la valeur pour l'éternité? C'est dans quoi tu dois investir pour l'éternité? C'est quoi qui est essentiel dans ta vie, dans la période que tu vis? À quoi Dieu il t'appelle vraiment, maintenant? Dans quel domaine tu es appelé à travailler? Dans quel domaine tu n'es pas appelé à travailler? Tu le fais parce que tu ne sais pas trop, mais tu n'es pas appelé à travailler là-dedans. Et le Saint-Esprit veut te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Souvent, je prie le matin et je demande au Saint-Esprit, aujourd'hui, montre-moi aujourd'hui ce que je dois faire et aussi ce que je ne dois pas faire. Parce que j'ai tendance à voir trop, alors je dis, le Saint-Esprit va montrer ça, peut-être ce n'est pas pour aujourd'hui, donc on barre. Non, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Super, Seigneur, merci. J'ai vu une phrase qui disait « Changez le temps tyran en temps serviteur ». C'est intéressant, ça. Je ne sais pas si vous avez cette impression des fois que le temps, c'est comme un tyran. On est là, on doit tout faire, on doit y aller, tout ça. Puis pour finir, c'est comme un tyran. Mais non, changez ce temps qui était un tyran comme un temps serviteur. Ce temps, il m'a été donné et je veux vraiment l'utiliser selon Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 58, c'est dit, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et ça m'a toujours interpellée, ce verset, de me dire, c'est pas écrit, travailler de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. C'est travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire, c'est pas forcément que tu vas en faire beaucoup plus, ça veut dire que tu vas cibler ce qui est important, Dieu va te montrer ce qui est important. Et ça, tu vas le faire de mieux en mieux. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Moi, j'ai des questions par rapport à tout ce que j'ai fait et qui n'était pas, que Dieu ne me demandait pas. Et je pense que ces choses, mon travail, il a été dans certains domaines vain dans le Seigneur parce que j'ai été à côté de la plaque dans ce que j'ai fait, puis Dieu ne m'a même pas demandé ça. Mais si je travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, mon travail, il aura des résultats dans le Seigneur. Oui, 1 Corinthiens 15, 58. Savez-vous que le diable a aussi la notion du temps? Est-ce que vous saviez ça? Oui. Il y a un verset qui dit dans Apocalypse 12, 12, je ne vous lis pas tout, mais il y a un petit bout qui dit « Sachant qu'il lui reste peu de temps. » Lui, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il a la notion du temps. Donc nous, on veut aussi cette notion du temps. Hein. Et je vais finir avec ça, de vraiment l'urgence de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous vraiment et pas être dans autre chose au niveau de notre temps. Dans Romains 13, 11 à 14, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. Là aussi, ça parle de savoir les temps qu'on vit. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Ça a été écrit par Paul et il dit que c'est l'heure de vous réveiller du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru, le jour approche. S'il approchait déjà du temps de Paul, je ne vous dis pas comment il est proche maintenant. Donc c'est le moment de nous réveiller. Et on est vraiment... Pourquoi c'est l'heure de nous réveiller? C'est parce qu'on est vraiment dans une guerre spirituelle. Ça nous dit de revêtir des armes, les armes de la lumière. En préparant ce message, et je vais terminer avec ça, je me suis rappelé un souvenir qu'on avait eu en famille. On était partis à Disneyland Paris avec les deux garçons. Et puis... Manu, il avait ramené dans son sac une épée. On était en avion. On était allé en avion parce que, voilà, à Paris. Et puis, il avait acheté à Disneyland Paris une épée. Et quand quand les agents de sécurité, il a vu dans le scanner, il a sorti cette épée. Et puis, il a dit Mais ça va pas passer. Ça peut pas passer, c'est une arme. Puis nous, on lui dit, mais c'est une arme en plastique, c'est un jouet. Puis il dit, non, mais c'est une arme. Puis pour finir, on a tellement insisté, il a été appelé un supérieur. Et puis pour que le supérieur, il voit cette arme, puis qu'il dise si on pouvait la rentrer ou pas à Genève. Je ne vous dis pas l'épée que c'était, elle était bien faite, mais c'était une épée en plastique. Et le gars, il a dit, oui, c'est bon, ils peuvent la prendre avec et tout ça. Et puis, ça m'est revenu cette histoire en me disant, mais oui, on est en guerre, on est dans des temps de guerre. Et puis, quelle est l'arme qu'on est en train d'utiliser? Est-ce qu'on est conscient qu'on est en guerre? Puis, est-ce qu'on est en train de juste sortir notre arme en plastique, puis se croire en guerre, puis être là, alors que cette arme, elle est inutilisable? Ou est-ce qu'on a vraiment réalisé les temps qu'on vit, puis qu'on est dans des temps vraiment de guerre spirituelle où il y a des enjeux spirituels sur notre génération et on va sortir les vraies armes que Dieu il nous a données je ne vais pas vous parler des armes du croyant, mais c'est intéressant de reprendre toutes ces armes que Dieu nous a données, l'épée, le casque, les chaussures, la ceinture et tout ça, pour saisir le temps qu'on vit et pour prendre les bonnes armes et pas des armes qui sont factices et puis qui vont nous servir à rien dans le temps qu'on vit. Alors, soyons vigilants, consacrons notre temps à Dieu, le temps qui nous reste à vivre. Moi, je viens de fêter mes 50 ans et j'ai redit à Dieu, les années qui me restent à vivre, je veux les vivre pour toi, entièrement, pleinement, et puis vraiment faire ta volonté, c'est ça que je veux pour ma vie, pas autre chose. Et que Dieu nous donne la révélation des temps qu'on vit et qu'on puisse utiliser chaque moment avec son discernement, la connaissance de sa volonté, pour gérer notre temps selon son cœur. Amen.